Lendemain matin, Madame Grandet trouva sa fille se promenant avant le déjeuner en compagnie de Charles. « Mon père ne reviendra que pour le dîner ?» dit Eugénie en voyant l'inquiétude peinte sur le visage de sa mère. Il était facile de voir dans les manières, sur la figure d'Eugénie et dans la singulière douceur que contracta sa voix, une conformité de pensée entre elle et son cousin. Leur âme s'était ardemment épousée avant peut-être même d'avoir bien éprouvé la force des sentiments par lesquels ils s'unissaient l'un à l'autre. Charles resta dans la salle et sa mélancolie y fut respectée. Chacune des trois femmes eut à s'occuper. Vers 5 heures du soir, Grandet revint d'Angers, ayant eu 14 000 francs de son or et tenant dans son portefeuille des bons royaux qui lui portaient intérêt jusqu'au jour où il y aurait à payer ses rentes. « Je reviens d'Angers, ma femme, » dit-il. « J'ai faim !» Nanon lui cria de la cuisine. « Est-ce que vous n'avez rien mangé depuis hier ?»« Rien, » répondit le bonhomme. Nanon apporta la soupe. Desgrassins vint prendre les ordres de son client au moment où la famille était à table. Le père Grandet n'avait seulement pas vu son neveu. « Mangez tranquillement, Grandet, » dit le banquier. « Nous causerons. Savez-vous ce que vaut l'or à Angers, où l'on est venu chercher pour Nantes ? Je vais en envoyer. »« N'en envoyez pas, » répondit le bonhomme. « Il y en a déjà suffisamment. Nous sommes trop bons amis pour que je ne vous évite pas une perte de temps. Mais l'or, il vaut 13 francs 50 centimes. Dites donc, valet, d'où diable en serait-il venu ?»« Je suis allé cette nuit à Angers, » lui répondit Grandet à voix basse. « Monsieur Grandet, » dit-il à Charles, « je pars pour Paris et si vous aviez des commissions à me donner... »«
Aucune, monsieur, je vous remercie, » répondit Charles.
« Remerciez-le mieux que ça, mon neveu. Monsieur va pour arranger les affaires de la maison Guillaume Grandet. »«
Y aurait-il donc quelque espoir ?» demanda Charles.
« Mais, » s'écria le tonnelier avec un orgueil bien joué, « n'êtes-vous pas mon neveu ? Votre honneur est le nôtre. Ne vous nommez-vous pas Grandet ?»
Charles se leva, saisit le père Grandet, l'embrassa, pâlit et sortit. Eugénie contemplait son père avec admiration. Les deux diplomates se donnèrent une poignée de main, l'ancien tonnelier reconduisit le banquier jusqu'à la porte. Puis, après l'avoir fermée, il revint et dit à Nanon, en se plongeant dans son fauteuil,
« Donne-moi du cassis !» Mais trop ému pour rester en place, il se leva, regarda le portrait de monsieur de la Bertelière et se mit à chanter, en faisant ce que Nanon appelait des pas de danse. Nanon, Madame Grandet, Eugénie s'examinèrent mutuellement en silence. La joie du vigneron les épouvantait toujours quand elle arrivait à son apogée. La soirée fut bientôt finie. D'abord, le père Grandet voulut se coucher de bonne heure, et lorsqu'il se couchait chez lui, tout devait dormir. De même que quand Auguste buvait, la Pologne était ivre. Puis Nanon, Charles et Eugénie n'étaient pas moins là que le maître. Quant à Madame Grandet, elle dormait, mangeait, buvait, marchait suivant les désirs de son mari. Il fut jovial et clément. Lorsque Nanon vint avec son rouet, « Tu dois être lasse, » lui dit-il. « Laisse ton chanvre. »«
Ah ben, tiens, je m'ennuierais, » répondit la servante.
« Pauvre Nanon, veux-tu du cassis ?»«
Ah, pour du cassis, je ne dis pas non. Madame le fait bien mieux que les apothicaires. Celui qui y vante est de la drogue. »«
Ils y mettent trop de sucre. Ça ne sent plus rien, » dit le bonhomme.
Le lendemain, la famille réunie à 8 heures pour le déjeuner offrit le tableau de la première scène d'une intimité bien réelle. Le malheur avait promptement mis en rapport Madame Grandet, Eugénie et Charles. Nanon elle-même sympathisait avec eux sans le savoir. Tous quatre commencèrent à faire une même famille. Quant au vieux vigneron, son avarice satisfaite et la certitude de voir bientôt partir le mirliflore sans avoir à lui payer autre chose que son voyage à Nantes, le rendirent presque indifférent à sa présence au logis. Il laissa les deux enfants ainsi qu'il nomma Charles et Eugénie, libres de se comporter comme bon leur semblait, sous l'œil de Madame Grandet, en laquelle il avait d'ailleurs une entière confiance en ce qui concernait la morale publique et religieuse. L'alignement de ses prés et des fossés jouxtant la route, ses plantations de peupliers en Loire et les travaux d'hiver dans ses clos à froid fond l'occupèrent exclusivement. Dès lors, commença pour Eugénie le primevère de l'amour. Depuis la scène de nuit pendant laquelle la cousine donna son trésor au cousin, son cœur avait suivi le trésor. Complices tous deux du même secret, ils se regardaient en s'exprimant une mutuelle intelligence qui approfondissait leurs sentiments et leur rendait mieux communs, plus intimes, en les mettant ainsi dire tous deux en dehors de la vie ordinaire. La parenté n'autorisait-elle pas une certaine douceur dans l'accent, une tendresse dans les regards? Aussi Eugénie se plut-elle à endormir les souffrances de son cousin dans les joies enfantines d'un naissant amour. L'enfance et l'amour fut même chose entre Eugénie et Charles. Ce fut la passion première avec tous ces enfantillages, d'autant plus caressants pour leur cœur qu'ils étaient enveloppés de mélancolie. En se débattant à sa naissance sous les crêpes du deuil, cet amour n'en était d'ailleurs que mieux en harmonie avec la simplicité provinciale de cette maison en ruine. En échangeant quelques mots avec sa cousine au bord du puits, dans cette cour muette, en restant dans ce jardinet, assis sur un banc moussu jusqu'à l'heure où le soleil se couchait, occupé à se dire de grands riens, ou recueilli dans le calme qui régnait entre le rempart et la maison, comme on l'est sous les arcades d'une église, Charles comprit la sainteté de l'amour. Car sa grande dame, sa chère Annette, ne lui en avait fait connaître que les troubles orageux. Il quittait en ce moment la passion parisienne, coquette, vaniteuse, éclatante, pour l'amour pur et vrai. Il aimait cette maison, dont les mœurs ne lui semblèrent plus si ridicules. Il descendait dès le matin, afin de pouvoir causer avec Eugénie quelques moments, avant que Grandet ne vînt donner les provisions. Et quand les pas du bonhomme retentissaient dans les escaliers, il se sauvait au jardin. La petite criminalité de ce rendez-vous matinal, secret même pour la mère d'Eugénie, et que Nanon faisait semblant de ne pas apercevoir, imprimait à l'amour le plus innocent du monde la vivacité des plaisirs défendus. Puis, quand après le déjeuner, le père Grandet était parti pour aller voir ses propriétés et ses exploitations, Charles demeurait entre la mère et la fille, éprouvant des délices inconnues à leur prêter les mains pour dévider du fil, à les voir travaillant, à les entendre jaser. La simplicité de cette vie presque monastique, qui lui révéla les beautés de ces âmes auxquelles le monde était inconnu, le toucha vivement. Il avait cru ces mœurs impossibles en France et n'avait admis leur existence qu'en Allemagne. Encore n'était-ce que fabuleusement et dans les romans d'Auguste Lafontaine. Bientôt pour lui, Eugénie fut l'idéal de la Marguerite de Goethe, moins la faute. Enfin, de jour en jour, ses regards, ses paroles ravirent la pauvre fille qui s'abandonna délicieusement au courant de l'amour. Elle saisissait sa félicité comme un nageur saisit la branche de saule pour se tirer du fleuve et se reposer sur la rive. Les chagrins d'une prochaine absence n'attristaient-ils pas déjà les heures les plus joyeuses de ces fuyardes journées? Chaque jour, un petit événement le rappelait la prochaine séparation. Ainsi, 3 jours après le départ de Des Grassins, Charles fut emmené par Grandet au tribunal de première instance avec la solennité que les gens de province attachent à de tels actes, pour y signer une renonciation à la succession de son père. Répudiation terrible, espèce d'apostasie domestique. Il alla chez Maître Cruchot faire 2 procurations, l'une pour Des Grassins, l'autre pour l'ami chargé de vendre son mobilier. Puis il fallut remplir les formalités nécessaires pour obtenir un passeport à l'étranger. Enfin, quand arrivèrent les simples vêtements de deuil que Charles avait demandés à Paris, il fit venir un tailleur de Saumur et lui vendit sa garde-robe inutile. Cet acte plus singulièrement au père Grandet. « Ah, vous voilà comme un homme qui doit s'embarquer et qui veut faire fortune !» lui dit-il en le voyant vêtu d'une redingote de gros drap noir. « Bien, très bien !»« Je vous prie de croire, monsieur, » lui répondit Charles, que je saurais bien avoir l'esprit de ma situation. « Qu'est-ce que c'est que cela ?» dit le bonhomme dont les yeux s'animèrent à la vue d'une poignée d'or que lui montra Charles. « Monsieur, j'ai réuni mes boutons, mes anneaux, toutes les superfluités que je possède et qui pouvaient avoir quelque valeur. Mais ne connaissant personne à Saumur, je voulais vous prier ce matin de... « De vous acheter cela ?» dit Grandet en l'interrompant. « Non, mon oncle, de m'indiquer un honnête homme qui... « Donnez-moi cela, mon neveu. J'irai vous estimer cela là-haut et je reviendrai vous dire ce que cela vaut à un centime près. Or de bijoux, dit-il en examinant une longue chaîne, 18 à 19 carats. Le bonhomme tendit sa large main et emporta la masse d'or. Ma cousine, dit Charles, permettez-moi de vous offrir ces deux boutons qui pourront vous servir à attacher des rubans à vos poignets. Cela fait un bracelet fort à la mode en ce moment. J'accepte sans hésiter, mon cousin, dit-elle en lui jetant un regard d'intelligence. Ma tante, je le gardais précieusement dans ma toilette de voyage, dit Charles en présentant un joli dé d'or à Madame Grandet, qui depuis 10 ans en désirait un. Il n'y a pas de remerciement possible, mon neveu, dit la vieille mère dont les yeux se mouillèrent de larmes. Soir et matin, dans mes prières, j'ajouterai la plus pressante de toutes pour vous, en disant celle des voyageurs. Si je mourais, Eugénie vous conserverait ce bijou. Cela vaut 989 francs 75 centimes, mon neveu, dit Grandet en ouvrant la porte. Mais pour vous éviter la peine de vendre cela, je vous en compterai l'argent, en livres. Je n'osais vous le proposer, répondit Charles. Mais il me répugnait de brocanter mes bijoux dans la ville que vous habitez. Il faut laver son linge sale en famille, disait Napoléon. Je vous remercie donc de votre complaisance.
Grandet se gratta l'oreille, et il y eut un moment de silence.
Mon cher oncle, reprit Charles, en le regardant d'un air inquiet comme s'il eût craint de blesser sa susceptibilité. Ma cousine et ma tante ont bien voulu accepter un faible souvenir de moi. Veuillez à votre tour agréer des boutons de manche qui me deviennent inutiles. Ils vous rappelleront un pauvre garçon qui, loin de vous, pensera certes à ceux qui désormais seront toute ma famille.
Mon garçon, faut pas te dénuer comme ça. Qu'as-tu donc, ma femme ?
Dit-il en se tournant avec avidité vers elle.
Ah, un dé d'or ? Et toi, Fifi, tiens, des agrafes de diamants.
Allons, je prends tes boutons, mon garçon, reprit-il en serrant la main de Charles. Mais tu me permettras de te payer ton... Oui, ton passage aux Indes.
Oui, je veux te payer ton passage. D'autant, vois-tu, garçon, qu'en estimant tes bijoux, je n'en ai compté que l'or brut. Il y a peut-être quelque chose à gagner sur les façons. Ainsi, voilà qui est dit. Je te donnerai 1500 francs, en livres, que Cruchot me prêtera.
Il prit son chapeau, mit ses gants et sortit.
Vous vous en irez donc, dit Eugénie en lui jetant un regard de tristesse mêlé d'admiration.
Il le faut, dit-il en baissant la tête. Depuis quelques jours, le maintien, les manières, les paroles de Charles étaient devenus ceux d'un homme profondément affligé, mais qui sentant peser sur lui d'immenses obligations, puis un nouveau courage dans son malheur. Il ne soupirait plus. Il s'était fait homme. Aussi jamais Eugénie ne présuma-t-elle mieux du caractère de son cousin qu'en le voyant descendre dans ses habits de gros drap noir, qui allait bien à sa figure pâlie et à sa sombre contenance. Ce jour-là, le deuil fut pris par les deux femmes qui assistèrent avec Charles à un requiem célébré à la paroisse pour l'âme de feu Guillaume Grandet.